C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personne agent personne par Charles Danzig. Auteur Charles Chaplin, 1889-1977, anglais, hétérosexuel, pauvre devenu riche par son talent artistique. Œuvre des dizaines de films de Charlot est content de lui, Kids Auto Race en 1914, aux Lumières de la ville, City Lights en 1936. Personnage, The Kid en français, Charlot. Charlie Chaplin est né en 1889 comme la Tour Eiffel. Et, de même que la Tour Eiffel est un idéogramme en fer, il a créé un personnage qui est un idéogramme. Un accent circonflexe arrondi et penché, deux parenthèses les unes sur les autres, un trait vertical de côté. Et tout le monde a compris. C'est celui qu'en France, nous appelons Charlot. Le Charlot de Charlie Chaplin a tout de suite été un succès. Quand Chaplin a été engagé par Max Sennett dans sa compagnie de production, les premiers films de la série Charlot, débutant en 1914, ont été réalisés par d'autres que lui. Après quoi, et dès Charlot débute en 1915, Chaplin a pris la caméra pour ne plus la laisser. La chose intéressante est qu'en anglais, Charlot n'a pas de nom. Chaplin lui a donné une appellation idéogrammatique, si je puis dire, en l'appelant The Kid, le gamin. C'est un gamin, comme on disait, un gamin de Poulbeau au même moment. Très peu de films lui donnent du reste cette appellation. Le premier s'appelle Making a Living, gagner sa vie, et c'est au second seulement qu'apparaît le gamin dans Kids Auto Race, la course d'auto du gamin. Puis, presque plus de Kid jusqu'au fameux long métrage The Kid en 1921. Les titres anglais se réfèrent aux histoires et pas aux personnages, comme s'il allait de soi, qu'il fût déjà là de toute éternité et n'eût pas besoin de nom. Ce sont les distributeurs français qui lui ont donné celui de Charlot. Dès le deuxième film, et ça n'a plus cessé, Charlot fait du cinéma, Charlot Marquis, un béguin de Charlot, il y a même une Madame Charlot. Et je crois que ce nom révèle le léger mépris que les distributeurs avaient du personnage. Charlot, ça voulait dire Gugus, pas sérieux. En 1883, un petit romancier naturaliste, Paul Bonnetin, avait publié un roman d'une stupidité enchanteresse sur la masturbation qui s'intitulait « Charlot s'amuse ». On peut donc dire qu'en France, Charlot a triomphé de son prénom. En France, on disait « Chaplin », comme on a encore dit « Baker », »,« Joséphine Baker », mais on avait beau franciser le nom du créateur, son personnage parlait universellement. Je me méfie de cette notion d'universel qui est si souvent un terrorisme, mais je crois que pour les choses très simples de la vie, les universaux existent. La misère existe partout, et partout avec les mêmes résignations et les mêmes éventuels combats. Il y a une politique de Charlot. Mais qui est ce Charlot? Pour en parler, je reçois Patrick Rougers, romancier et essayiste, dont le dernier livre paru est « Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur » chez Grasset. Patrick Rougers, j'ai fait la description idéogrammatique de Charlot, mais à quoi ressemble-t-il exactement physiquement?
C'est d'abord une silhouette, hein, vous l'avez très bien décrit en termes grammaticaux, c'est une silhouette et c'est surtout un personnage créé de toutes pièces. Il est fait de vêtements qui s'inspirent du music-hall anglais, effectivement, qui est sa formation artistique, hein, un pantalon trop large, une veste étriquée qui fait un contraste entre le haut et le bas, ses grandes chaussures, évidemment, et puis ce chapeau trop petit. Alors ce chapeau, il est très intéressant parce que c'est un chapeau melon. C'est donc le signe de la respectabilité. C'est ce qu'on retrouve aussi chez Godot. C'est ce qu'on retrouve chez Magritte. C'est en même temps un très grand signe de la modernité. Et en même temps, je dirais que, puisque je parle de Godot, les Godillots, ce sont aussi les Godillots des personnages de Godot. Mais ce sont aussi, je crois, les Godillots de Van Gogh. Et si je peux aller encore plus loin, délirons carrément tout de suite. Les Godillots, ce sont aussi les bottines que met Pollock lorsqu'il va se mettre à peindre et à danser autour de la toile, et il peint avec ses mains comme Charlot danse et peint avec ses pieds. C'est important parce que c'est une calligraphie gestuelle, mais c'est une geste du geste, l'œuvre de Charlot, qui passe par tous ses attributs. Et puis il y a deux éléments encore très très importants qui sont un élément extérieur qui est la canne, tentative de dignité, qui est un peu un prolongement de son corps, de ses mains, qui permet à faire des crocs en jambes, d'attraper les gens par le cou. Alors évidemment, il y a cet attribut central, La moustache. La moustache, au début, c'est pour se vieillir, parce qu'il est très jeune, hein, vous l'avez rappelé dans sa biographie, il a 23 ans à peu près quand il invente le personnage de Charlot. Et cette même moustache va continuer quand il aura encore 45 ans et lui permet, je dirais pas de rajeunir, mais de garder le même âge. Mmh. C'est-à-dire que Charlot, au fond, il n'a pas d'âge, mais d'ailleurs, vous l'avez plus ou moins dit aussi dans sa vie, il n'a pas de parents, il n'a pas de maison, il n'a pas de nom, on ne sait pas d'où il vient. Et cet emblème de moustache est très important. Elle a été dessinée pour lui par un coiffeur new-yorkais. Et alors, il l'avait dans une petite boîte en argent. Je pense qu'il en avait plusieurs quand même. Peut-être pas autant que les perruques de Warhol, parce que Warhol en avait, je crois, 160. Mais enfin, cet attribut est absolument fondamental. Et il permet, au fond, de centrer le personnage. Il permet de centrer sa figure, il permet de centrer la figure du corps. Et alors, il faut quand même imaginer aussi que Charlot est un acteur extraordinairement expressionniste avec son visage. Et alors, cette moustache, cette fameuse moustache, elle doit résister à toutes les mimiques, toutes les simagrées, toute cette expressivité extraordinaire du visage de Chaplin, et en même temps résister à toutes les intempéries qu'il traverse. Mmh. Alors, bon, tout ça a fait la figure d'un vagabond solitaire et insoumis. Et je pense que tout ça crée quand même la figure universelle au XXe siècle. J'ajoute à ça que c'est quand même aussi un personnage, c'est pas ce que je préfère chez lui, extrêmement sentimental.
On va y venir. Il y a une chose que vous venez de préciser, Patrick Roger, c'est que Chaplin a commencé à l'interpréter à 24 ans, il a fini à 46, il n'a pas d'âge, ce qui d'une certaine façon, c'est exceptionnel au cinéma, il n'a pas de pays. Est-ce que ça ne l'apparente pas à un personnage de bande dessinée?
Oui, dans mon livre que vous avez cité, j'ai fait un parallèle qui m'a paru intéressant entre Tintin et Charlot, parce que ce sont deux mythes du XXe siècle. La grande différence quand même, bon, effectivement, il y a des occurrences chez les deux, sens de parents, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'enfants. Mais la grande différence, c'est qu'un personnage comme Tintin ou comme d'autres, comme Astérix ou tout comme on peut imaginer, même Little Nemo, sont des personnages de papier. Alors que le corps de Charlot est un corps réel, c'est un corps matériel, c'est un corps qui a du poids, qui a un espace, qui a une densité, qui a une intensité, et dont il joue comme un athlète absolu du corps. Donc c'est une notion très très importante, parce que je pense que le cœur même de l'art de Chaplin repose profondément sur l'usage qu'il a de son corps, qui est un corps réel, qui est un corps vivant, qui est d'ailleurs un corps qui a des besoins. On peut dire d'ailleurs qu'il a souvent très faim. Il y a un organisme fonctionnel. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est un personnage, à mon avis, extrêmement frustré sexuellement. C'est un personnage en manque. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un harceleur sexuel, parce qu'il ne peut pas voir une fille ou une jeune femme passée, il déteste les vilaines, mais alors les belles, il en est éperdument amoureux tout de suite. Donc c'est un corps agissant, c'est un corps frénétique, c'est un corps en action perpétuelle, c'est, je dirais même, un corps névrotique.
Alors, en même temps, il y a tout ça, et il y a aussi une ambivalence dans le personnage de Charlot en permanence, c'est-à-dire qu'il peut à la fois être très délicat, il est galant avec les femmes, il leur offre des fleurs, il leur tend la main, etc. Oui, et en même temps, il peut être aussi d'une muflerie extraordinaire. Par exemple, je revoyais l'autre jour une scène de Charlot au Music Hall où il est assis au théâtre, il se tourne vers sa voisine, il est surpris tellement elle est laide, il va s'asseoir un rang devant, et ce qu'ayant fait, il est hébété, il se retourne vers la femme, il l'applaudit.
Oui. Charlot dégage un rire fédérateur. Il l'a véritablement voulu comme tel. C'est ce que Jean Cocteau appelait modèle du rire espéranto, qui s'adresse à tout le monde dans aucune langue, parce que Charlot ne parle pas. Bon, on l'a dit, il est toujours humilié, il est infortuné, il est désargenté. On peut dire que d'une certaine manière, ce qui permet au fond de le prendre en charge, de le prendre effectivement dans ses bras pour un très large public international, surtout à cette époque-là, c'est qu'au fond, Charlot incarne une apologie de l'échec. Il faut rater pour réussir, ce qui est d'ailleurs beckettien aussi au sens littéraire, mais comme tout le système économique de l'Amérique et idéologique de l'Amérique est basé sur la réussite, le grand mythe de l'Amérique, c'est de dire même si vous êtes un raté, vous pourrez réussir parce que notre entreprise démocratique le permet. Et Charlot incarne ça de manière fabuleuse, je dirais, au sens de la fable. Mais en même temps, bon, ça fédère. Et alors, si je peux faire un aveu, Moi, j'ai jamais trouvé que Charlot était un type gentil. J'ai toujours trouvé que c'était un type extraordinairement méchant et qu'à travers son personnage de Charlot, Charlie Chaplin, qui était un personnage quasiment à la Dickens dans les conditions de vie qui sont celles de son enfance, prend sa revanche sur le monde. Et il faut bien dire que ces gags sont extrêmement cruels, ce qui est le propre du burlesque. Hein. Le propre du burlesque, c'est de détruire le monde en place.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Mon c'est-à-dire Dieu. Que,
non, vous dites méchant. Il a une apparence de méchant, mais il est méchant comme Voltaire. C'est-à-dire qu'on a assez tendance à appeler méchant des gens qui se défendent. Malgré tout, il est teigneux, c'est évident.
Il est teigneux.
Mais c'est un pauvre, c'est un misérable et il se défend contre un monde violent aussi. Donc, est-ce que cette méchanceté est une méchanceté active ou une méchanceté de défense contre un monde agressif et...
Je crois que le personnage de Charlot, et on va certainement y venir, est un personnage, en fait, complexe, évidemment.
Oui,
c'est un personnage ambigu. Je pense qu'il a une perversité au fond, de l'affect qu'il crée par le sentiment de cette forme de fausse générosité qu'on aurait de plaindre un infortuné qui n'a rien, qui se plaît dans la compagnie des chiens de passage ou des enfants. Mais en fait, le vrai problème de Charlot, c'est de prendre sa revanche sur la société.
Oui.
C'est de trouver une place dans la société. À la fois, il la veut et à la fois, il ne la veut pas. C'est-à-dire qu'en fait, il tend la main, si on peut dire, pour pouvoir trouver sa place dans cette société. Et en même temps, il est rebelle à ce désir. Donc il se venge, et les coups qu'il donne en cascade, les gifles, bon alors il l'a beaucoup dit évidemment, les gifles par exemple, ou même les coups de poing, sont travaillés, ce sont des faux coups de poing, c'est factice. Mais la moustache, elle est vraie. Alors on peut dire par exemple que la moustache de Groucho Marx, elle était quand même peinte au bouchon.
Oui.
Hein. La moustache de Hardy, c'est une vraie moustache, et les lunettes d'Harold Lloyd n'ont pas de verre. La moustache de Charlot est une fausse moustache qui devient vraie. Et donc, il y a tout un jeu comme ça entre le factice, ce que je veux devenir, ce que je veux être, et puis ce que je suis vraiment. Il y a Chaplin, quand même, toujours pour moi, caché derrière le personnage de Charlot. Il y a une double identité. Charlot n'est au fond que le prête-nom de l'identité de Chaplin, puisque d'ailleurs, on appelait, au départ, ailleurs, on l'appelait toujours Charlie. Et pas Charlot, c'est en France que c'est venu.
Bien sûr. Je me demande si l'ambiguïté dont nous avons parlé ne vient pas aussi d'un conflit qui est entre Chaplin et son personnage. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que Chaplin a voulu faire un vagabond, un paresseux, parce que très souvent il ne fait rien. Mais lui, Chaplin, comme créateur, c'est un hyperactif, il fait des tas de choses, il est obligé de se défendre parce que les Américains l'ont assez mal accueilli aussi. Donc
oui.
J'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce d'interaction conflictuelle entre Charlot et son personnage de ce point de vue-là. Il n'a pas réussi à faire le paresseux vagabond qu'il voulait vraiment.
À un moment donné, Chaplin devient un véritable chef d'entreprise. Il dirige des studios, il a des budgets colossaux, il tourne parfois pendant un an et demi. Il y a une chose très importante qu'il faut quand même qu'on dise, c'est que, et ça touche au génie de Chaplin parce que ça touche directement à la création, les films de Charlot, donc de Chaplin, ne sont pas scénarisés. Il ne fait pas de scénario. Il a une véritable formation de clown, de musical et de cirque.
De pantomime.
Exactement, bien sûr. Et en fait, il enchaîne des gags comme on le faisait à l'époque dans le cinéma burlesque et comme font d'ailleurs Buster Keaton et tous ces génies absolus. Il enchaîne des gags à partir de situations avec des personnages où joue son personnage de Charlot. Et à mesure, d'abord, il fait une soixantaine de films de Charlot, de courts-métrages, de durées variées. Et puis, à un moment donné, le succès international est tel. Charlot devient un mythe sur lequel on peut projeter beaucoup de choses sur ce petit personnage. Il faut dire que Chaplin n'était pas grand. Il faisait 1m65. Hein. C'est très, très important pour évaluer la courbe et la gesticulation absolument stupéfiante de ce personnage. Mais en même temps, c'est un géant. C'est un géant du cinéma. Et donc, quand il fait ses films, il y a Charlot qui agit par Chaplin lui-même, qui se met à jouer et qui gère l'ensemble du film. Et puis, il y a Chaplin producteur. Et on peut même dire qu'à un moment donné, parfois, il tournait pendant 18 mois, ce qui est considérable. Et puis, après ça, il regardait les rushs. Et puis, il n'était pas content d'un gag, il le recommençait, et même, il y a eu des fois où le film était quasiment terminé, il avait fait détruire le décor, et puis il disait non, on refait tout, il faisait reconstruire, et finalement, Chaplin, qui a dénoncé le dictateur, devenait lui-même une forme de dictateur de la production. Et c'est là qu'il y a effectivement, je dirais, une dualité très intéressante, je dirais, entre Chaplin et Charlot, parce que Charlot, il est aussi ingénieux, il est astucieux, il est débrouillard. Je pense qu'il est cupide, il est intéressé, et je l'ai dit, il est frustré.
Il est un peu lubrique par moment aussi.
Il est vraiment lubrique, il l'est vraiment, et il l'est même physiquement. Alors il est à la fois dans la révolte, il ne s'intègre pas, et comme il n'arrive pas à s'intégrer, il détruit tout.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Patrick Rougers. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est pour revenir à ce que vous disiez aussi sur la méchanceté supposée ou non de Charlot.
Très active,
hein. Une chose très frappante, c'est Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, dans Trop c'est trop, il raconte ses tranchées. Il dit qu'en 1915, tout d'un coup, il a vu revenir les permissionnaires dans les tranchées et les permissionnaires ne parlaient que de Charlot, dont les premiers films venaient d'être diffusés à Paris. Et il dit, et il se racontait les aventures des personnages, et il raconte que les tranchées hurlaient de rire. Il dit Charlot, Charlot, Charlot dans toutes les cagnas, et la nuit, on entendait rire jusqu'au fond des sapes. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que la guerre, ça peut être aussi le rire. Mais tout ça, c'est pour vous dire que, est-ce que ça n'est pas aussi, l'universalité de Charlot ne vient pas du fait que c'est un comique de vengeance?
Il y a l'universalité que vous avez redite, de vengeance, oui, mais il faut dire aussi que ces pauvres types dans les tranchées, alors que tout pétait autour d'eux, que les bombes faisaient un bruit d'enfer, étaient absolument réduits au silence. D'ailleurs, au fond, est-ce que les militaires ne sont pas des charlots quand ils vont à la guerre, hein, au sens propre? La grande différence, j'imagine que c'est ce que pointait Cendrars, c'est que le soldat ne peut pas se rebeller parce que sinon il est fusillé. Et donc, au fond, il y a une catharsis sociale à travers le personnage de Charlot, à travers mille situations, pas seulement les situations de combat, mais on peut dire que la situation sociale dans les années 30 aux États-Unis, où apparaissent les grands photographes américains comme Dorothea Lange, etc., qui dénoncent la pauvreté, la misère dans le Sud par des documents terrifiants, eh bien, au fond, Chaplin, d'une certaine manière burlesque, comique, amusante, divertissante, dénonce politiquement les mêmes situations, c'est-à-dire des gens qui crèvent dans la rue, sur le trottoir, avec rien pour s'en sortir. Et puis, mais il arrive à en faire rire.
Et puis, oui, c'est ça, parce qu'il y a une politique du coup de pied au cul. Nous allons entendre la chanson des temps moderne où Charlot a oublié fameusement les paroles de Titine et donc il pose sur ses notes un tutti frutti de langage, je la tue, la tue, la toi, qui me rappelle d'ailleurs le génial langage des Minions, les petits personnages jaunes de la série Moi, moche et méchant.
Tu sei d'ore, je ne te soccorre, je ne te si t'avore, je la tue, la tue, la toi. La spinage en la bouchon, si grette pote bello, si raquiche pateletto, je la tue, la tue, la toi. La cime, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tout la tout la tout la wa. C'est mon tia si la mort. Le son tia s'entrevore. La zonche comme sœur, j'ai la peau de sa dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne.
Patrick Rougiers, je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur cette prise de parole qui est peut-être unique d'ailleurs dans les films de Charlot, puisque tous les films sont mieux, même à l'air du parlant d'ailleurs.
Oui. Moi, je trouve que c'est une scène absolument bouleversante dans les temps modernes. Si on la remet cette scène dans le contexte profond de, comment je dirais, autobiographique du personnage de Charlot par rapport à Charlie Chaplin. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, André Bazin, le grand critique des Cahiers du cinéma, qui a énormément défendu Chaplin, qu'il mettait au même titre que Hitchcock ou qu'Antonioni ou que d'autres très grands cinéastes qu'il a, ou Fritz Lang, qu'il a beaucoup défendu, il a dit cette chose qui m'a interpellé. Et puis finalement, j'y réfléchis, il a dit « Charlot, c'est l'inconscient de Chaplin ». Alors, ça veut dire quoi ? À travers cette scène dont on vient d'entendre la musique, il y a effectivement une notion... éperdument émouvante dans le personnage de Charlot et aussi dans le personnage de Chaplin. Je m'explique. Dans ses films, dans toutes ses œuvres en noir et blanc, Charlot n'a pas la parole. Il n'a pas la parole au propre comme au figuré, et même lorsque le cinéma parlant est déjà largement instauré et qu'on pense que le cinéma muet va être totalement dépassé, ce qui est le vrai d'ailleurs pour certains acteurs, il ne veut pas que Charlot parle, il ne veut pas que Charlot prenne la parole, il ne veut pas qu'au fond on entende la voix de Charlot et que Charlot ait voix au chapitre. Alors, dans les temps modernes, il y a cette chanson extraordinaire et il faut voir ce qui se passe juste avant. Donc il est amoureux d'une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, et dans la cuisine... Elle lui dit « Tu dois aller chanter », alors qu'il est engagé comme serveur dans ce restaurant, il rate évidemment tout. Elle lui écrit les paroles sur les manchettes, sur la manche de son costume. Et puis il arrive en scène, et là, il a cette pantomime absolument extraordinaire gestuellement. Il danse comme ça, avec le derrière en arrière et ses pieds en avant. Parce qu'il attend la musique, mais il oublie les paroles. Il se retourne comme ça vers Daisy, là, qui est en cuisine, et il y a un carton en dessous qui lui dit « J'ai oublié les paroles ». Et elle lui répond « Chante ». Tant pis pour les paroles. Et là, il se met à chanter. Et il chante cette chanson absolument extraordinaire, qui est la seule fois de toute l'œuvre de Chaplin où on entend la voix de Chaplin. Mais ça n'est pas suffisant. Chaplin est devenu Charlot, dit-on, le jour où sa mère, qui était donc actrice de music-hall et de cabaret, au milieu d'une chanson, a une interruption vocale. Et s'est réduite elle-même au silence. Et puis sa mère est devenue folle. La mère de Charlot, de Chaplin, est devenue folle. Elle était internée dans un asile, comme la grand-mère de Chaplin. Chaplin l'a raconté. Et il a toujours eu peur que ce soit héréditaire et que lui-même devienne fou. Mais disons qu'à travers cette chanson, il renoue avec la parole de sa mère. Il refait chanter sa mère. Il refait chanter sa mère avec la voix de Charlot. Quand on sait ça, c'est bouleversant. Et là, nous avons un acte proprement génial de la part de Chaplin vis-à-vis de son personnage.
C'est intéressant aussi sous le rapport de l'émotion. Et ça, c'est intéressant parce que les films de Charlot sont souvent émouvants, mais à mon avis, jamais où Chaplin le croit. Et en particulier quand il passe au long métrage, et c'est assez frappant dans Le Kid, qui est quand même d'un sentimentalisme outrageux moment. Et ça, c'est les moments assez curieux où on se dit qu'effectivement, peut-être Chaplin est méchant parce que quand il arrive au sentiment, il ne peut l'aborder que sous l'angle du mélo.
Oui, ben alors on le voit d'ailleurs, puisqu'il a lui-même composé les musiques de ses films. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé ces musiques complètement mélodramatiques, redondantes, insupportables, avec une sorte de surabondance de violon, soulignant, enfin redondante réellement son action. Alors que le génie de Chaplin, si on compare à Buster Keaton, par exemple, l'homme qui ne sourit jamais comme on sait, qui avait des yeux sublimissimes, Buster Keaton est un danseur métaphysique, phlegmatique, et il y a une mathématique extraordinaire du comique de Keaton, qui est un génie pur aussi. Et Chaplin, à certains moments, rejoint le même génie. Parce qu'il y a une chose qu'il faut absolument qu'on dise, c'est que dans les meilleurs moments des films, tout Charlot, c'est un ballet. C'est-à-dire des règles extraordinairement strictes, et ce sont, mon cher Charles, vous qui aimez tellement ce mot, des figures de style. Et à travers toutes ces figures de style récurrentes, mais en même temps extraordinairement contraignantes, là, on voit le génie de Chaplin qui aboutit à la perfection. Parce que c'est à la fois une chorégraphie, ces gags, c'est à la fois chronométré, il ne se fait pas doubler, ce corps mécanique, ce corps automate, trouve effectivement sa quintessence dans les temps modernes. Et là, nous sommes dans quelque chose d'absolument admirable.
Oui. Et c'est d'autant plus beau là que ça n'est fait avec l'appui d'aucun subterfuge, comme le mélo pour le sentiment. C'est-à-dire que même non. Au contraire, il le fait avec des choses assez communes et parfois vulgaires. Oui. Vous parliez de nourriture tout à l'heure. Il y a des choses de chorégraphie avec quand il mange énormément. Oui. Enfin, ça, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Et d'ailleurs, pour en rester à la nourriture, je voudrais qu'on parle un peu de la politique de Charlot. Je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Je crois que non. Mais à propos de nourriture...
Tout est politique si tout est poétique.
Il était très frappant de voir que le personnage de Charlot étant miséreux ou un pauvre, il ne rêve que de manger. Et donc, il y a des fantasmes de sandwichs énormes et des choses comme ça où il s'empivre. Et il y a la fameuse scène où on lui fait manger à la machine un petit pois. Oui. Et c'est aussi la symbolique des riches qui ne donnent aux pauvres qu'un petit pois à manger. Et où là commence à apparaître une espèce de critique politique qui aboutira après dans Roi à New York à une critique plus violente, mais c'est plus le personnage de Charlot. Et où on pourrait avoir une critique marxiste de Chaplin en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre qui ne se révolte jamais ?»
Oui, mais bon, je pense qu'il ne faut pas oublier que Chaplin a vraiment eu faim. Il a vraiment connu la misère. Et que derrière tout cela, il y a une sorte de côté rabelaisien sans la chair des mots. C'est Rabelais qui a dit cette phrase très belle « buvez toujours, vous ne mourrez jamais ». On pourrait dire pour Chaplin « mangez toujours, vous ne mourrez jamais ». C'est-à-dire qu'il faut engloutir le monde. Il faut avaler la terre entière. Et son appétit de vie, son appétit d'amour, son appétit de beauté, son appétit de grâce, son appétit de danse, son appétit
de réussite
et d'invention, il l'avale à travers la gestuelle de la nourriture. Je pense que dans toute l'œuvre de Chaplin, il y a à la fois un côté critique et rebelle profond sur l'Amérique, mais il y a un message d'espoir qui enchantait le monde.
D'ailleurs, je prêchais un peu le faux pour savoir le vrai, car j'ai trouvé une phrase très bien de Roland Barthes dans La Mythologie, où il a écrit un petit texte sur Charlot, et il écrit « Charlot montre sa cécité au public de telle sorte que le public voit à la fois l'aveugle et son spectacle. Voir quelqu'un ne pas voir, c'est la meilleure façon de voir intensément ce qu'il ne voit pas. » Et donc, la part de critique politique est quand même dans Charlot, puisque nous voyons cet homme mal faire, et donc nous savons qu'il faut bien faire.
Oui, je pense qu'il faut être vigilant sur ce que montre le sentimentalisme de voilà. Charlot. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Charlot coiffeur, où là on voit vraiment à l'œuvre le travail burlesque, qui est quand même une entreprise de démolition organisée d'ailleurs chez Laurel et Hardy, chez tout le monde. Ce siège de coiffeur est à la fois un siège éjectable, est à la fois une siège de décapitation. Il y fait subir à ce pauvre type tous les pires sévices. Hein. Mmh. Il le tourne, il lui met la tête dans le feu, puis il le tourne dans l'autre sens, il lui met les pieds dans le feu, puis il lui rase le crâne, et puis il lui barboule la figure. Il en fait un personnage à la Elephant Man dans David Lynch. Et finalement, il casse le fauteuil et il remet le type sur le fauteuil. Il ne reste rien. Et donc, effectivement, dans ce fameux Charlot coiffeur, on voit cette violence déchaînée qu'il a de mettre le monde en pièces, avec ce paradoxe en même temps de dire « mais je veux m'intégrer, aimez-moi ». Et finalement, d'ailleurs, les Américains l'ont mis à la porte à l'époque du McCarthyisme, hein, puisqu'il était quand même plutôt de gauche de ce point de vue-là. Il a refusé totalement qu'on le taxe de communisme, il a refusé de collaborer comme d'autres au McCarthyisme, et il est parti en Suisse. Mmh. Il est parti en Suisse. Et ce destin d'un Chaplin partant des bas-fonds de l'Angleterre, triomphant aux États-Unis, triomphant avec son œuvre entière de manière universelle dans le monde et puis finissant à Vevey, c'est surprenant comme parcours.
Patrick Rogers, ce que vous a appris le personnage de Charlot ?
Que tout est fortuit, sauf le hasard. Parce que le hasard, c'est une construction de l'esprit, et toute l'œuvre de Chaplin n'existait pas s'il n'inventait pas le hasard auquel il se coltine à chaque plan.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis,
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Éric Boisset.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis. Quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.